Ce n'est qu'un au revoir, Nathalie. Non, il n'y a pas de revoir. Bonjour, Nathalie.
Bonjour Alain.
Alors, ça y est, on en est arrivé à la DR.
Alors, à la DER des DER, ici à La Réunion, mais c'est pas la fin, c'est pas définitivement une fin.
Bah oui, mais quelque part, c'est la fin définitive d'une histoire.
Voilà, c'est ça, la fin d'une expérience.
Ouais, justement, comment dire, la fin définitive, comme je l'appelle, c'est un peu le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Autant la semaine dernière, on a parlé de laisser le passé de côté pour passer à l'avenir, ce qui veut dire que j'ai un objectif.
Oui.
Là, je suis plus concret. En fait, ben, après la fin, il n'y a plus rien. En tout cas, on ne sait pas ce
Après
qu'il y a.
la fin, il n'y a plus rien.
Voilà, après la fin, il n'y a plus rien. Pas d'accord?
Alors après, tout dépend de quelle fin on parle. Si c'est une fin de vie, effectivement, perdre une personne qui nous est chère, donc garder de l'amour, mais ne plus voir son corps physique, ne plus avoir d'interaction avec elle, effectivement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à vivre, où le processus, parfois peut être relativement long. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que je vais plutôt parler, c'est de fin, soit de fin de carrière, ou alors la fin d'une, un tournant dans la vie, une expatriation, un déménagement, voilà, quelque chose, un
La vie.
sujet plus léger, que la mort, puisque le processus de deuil, en tout cas la fin de vie, on ne parle pas de la même chose,
On
voilà.
est d'accord. On peut parler aussi
Donc,
de la fin d'une entreprise. Bon, parce qu'il y a
oui,
souvent.
alors oui.
On a dans le Progrès de Lyon aujourd'hui, c'est un palmarès des 50 jeunes qui vont faire la région de demain. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les 50, il y en a quand même 30 qui ont repris une affaire familiale. Et il y a un article qui parle justement de tous ces artisans, tous ces médecins qui partent sans avoir de remplaçant. Bah, c'est la fin définitive de quelque chose.
J'ai essayé de répéter la question, Alain, j'ai
Je
rien
disais,
compris.
on peut parler de la fin d'une entreprise aussi, par le fait que
Oui,
bah,
oui.
y a parfois des gens comme dire, qui s'en vont et qui n'ont pas de remplaçant, ou il y a des entreprises qui ferment parce que c'est fini, quoi. Voilà.
Oui, effectivement. Alors, la fin d'une entreprise bah, peut être perçue chez certaines personnes comme extrêmement douloureuse. D'ailleurs, quand j'accompagne des gens qui, par exemple, quittent leur entreprise pour prendre leur retraite, donc du jour au lendemain, vont se retrouver ben, en dehors du système, on va dire, en tout cas, ne vont plus voir les mêmes personnes, etc. Donc là, il peut y avoir un processus de deuil qui se met en place, si tant est que la suite n'est pas préparée. En fait, ce qui est important quand on est dans une fin de quelque chose, c'est de préparer la suite. Pourquoi? Parce que quand on se trouve dans une fin, tout d'un coup, il y a un non-sens. C'est-à-dire que on perd ses repères, on perd les personnes que l'on avait l'habitude de voir. Donc, il y a un non-sens en fait. On se retrouve devant un vide, devant quelque chose. Donc, le fait de préparer atténue cet effet de non-sens et cet effet de deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a un après. Donc là, la fin, c'est uniquement une étape et on se prépare ensuite à réaliser autre chose. Donc là, ça prend du sens. Pourquoi? Parce que j'imagine aussi la suite. Quand on arrête quelque chose sans avoir imaginé une suite, quelle qu'elle soit, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et ça peut même conduire à des dépressions ou à des burn-out, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve devant un non-sens et devant un vide qu'il est difficile de combler et que l'on n'a pas suffisamment préparé. Préparé dans le sens où je vais faire autre chose, où je vais donner une nouvelle direction dans ma vie. Donc du coup, c'est un peu se retrouver devant un mur et ne plus comprendre ce qui se passe.
Oui, mais
Donc
moi, excuse-moi,
c'est
Nathalie.
important.
Ouais, moi, je ne le veux
Oui.
pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas cette fin. Je n'accepte pas de voir quelque chose se terminer. Parce que quand tu dis le préparer, il faut encore se donner les moyens de le préparer.
Alors, attends, si j'ai bien compris ta question, c'est que tu ne veux pas. Ah oui, alors voilà,
Ah non, je ne veux
j'ai
pas.
compris ta
Bah, tu es
question.
gentil, tu es en train de me dire que si c'est une fin. Bah, la fin, il faut que je prévoie l'après. Moi, je te dis non. Non, je n'ai pas question que j'envisage l'après, parce que pour moi, il n'y a pas d'après.
Parce que c'est une fin qui t'a été imposée?
Ben, quand c'est la liquidation d'une entreprise, quand c'est une entreprise qui se meurt et qui n'est pas reprise, oui. Oui, c'est une
D'accord. Alors justement, j'allais y venir. Donc il y a deux sortes de fins. C'est la fin que l'on a choisie. Donc délibérément, voilà, je décide de changer de cap dans ma vie. Je décide de changer d'entreprise. Je décide d'arrêter de travailler. Je décide de travailler autrement. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a souhaité. Donc là, à ce moment-là, il est plus facile d'envisager un après. Par contre, effectivement, quand on se trouve dans une situation où la fin est imposée, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec cette fin. Donc là, on se retrouve face à quelque chose auquel on n'est pas d'accord, auquel, effectivement, on n'est pas préparé. Donc, ça peut être quelque chose d'extrêmement violent, hein. La fin d'une entreprise, c'est comme perdre quelqu'un, perdre son bébé, on va dire social, son bébé rémunérateur, peut être extrêmement douloureux, tout comme perdre une personne. Donc là, effectivement, à ce moment-là, je dirais que c'est plus compliqué à gérer dans le sens où face à l'annonce du choc, il n'y a pour l'instant pas possibilité de voir au-delà, puisque le choc peut être violent. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bah, c'est déjà prendre un temps de recul parce que il y a l'annonce de l'événement. Donc oui, c'est fini. Ok, je m'y attends pas. Tout d'un coup, bah, ça fait un non-sens. Donc c'est, je parlais tout à l'heure du deuil quand on perd quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand on perd quelqu'un? Tout d'un coup, la vie n'a plus de sens. C'est-à-dire que hier, j'étais avec cette personne, hier, j'avais cette entreprise, et aujourd'hui, cette personne n'est plus là, cette entreprise n'est plus là. Donc, je me retrouve face à un non-sens. Donc, le non-sens demande du temps aussi pour l'apprivoiser, demande du temps pour l'accepter, demande du temps pour voir au-delà. Et là, on rentre dans un processus de deuil, comme quand on perd quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans le processus du deuil, donc il y a la violence de l'annonce. Ensuite, on rentre dans un processus plutôt de colère et de déni. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je me mets en colère. Je me révolte. C'est difficile pour moi. Ensuite, après ce processus où je me mets en colère, enfin voilà, peut arriver que j'ai peur, que je sois triste. Donc là, c'est encore une étape. Ensuite, je me résigne. Donc là, se résigner, ça veut dire aussi, c'est comme ça. Donc la colère, la peur, la tristesse s'atténue. Et puis tout d'un coup, on repart dans la phase ascendante où j'accepte. Et puis à partir du moment où j'ai accepté, je commence à réorganiser ma vie et je trouve à nouveau une certaine apaisement, une certaine sérénité pour recommencer autre chose.
Cette phase de résignation, elle peut durer combien de temps?
Comment?
Cette phase de résignation, elle peut durer combien de temps?
Elle est variable d'un individu à l'autre et tout dépend aussi quel attachement on avait avec la perte, par exemple, d'une entreprise ou avec la perte d'une personne. Et pour certaines personnes, ça peut aller très vite. Et pour d'autres personnes, ça peut durer des années. Et d'ailleurs, il y a des personnes c'est très, très difficile d'arriver à accepter la situation, de pouvoir réorganiser sa vie et d'arriver à un apaisement. Il y a des personnes qui n'y arrivent jamais. Je pense notamment au fait de perdre un enfant. Perdre un enfant, on n'est pas dans un processus naturel de vie, c'est-à-dire que c'est pas à l'enfant de mourir avant le parent. Donc là, le processus de deuil peut être beaucoup plus long. Et j'encourage d'ailleurs, et bon, la plupart des gens sont accompagnés dans ce processus-là parce que c'est extrêmement difficile. Ou dans des cas accidentels, de mort violente, vraiment des traumatismes, où là, vraiment, il faut être accompagné parce que sinon, le processus de deuil ne se termine pas et puis on ressort pas la tête de l'eau.
D'accord.
Maintenant, dans le cas d'une entreprise Par exemple, effectivement, si l'entreprise représentait pour moi toute ma vie, si je mettais toute mon énergie dedans, bah oui, le processus de deuil aussi peut être très long avant que je puisse sortir la tête de l'eau et voir ce qu'il y a après, qu'est-ce que je peux en faire, et aussi dresser un bilan de ce qui est arrivé. Comment se fait-il que j'en sois arrivée là aujourd'hui et qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour ne plus que ça se reproduise. Voilà, donc ça demande du temps et je dirais même que ça sert à rien d'aller trop vite parce que quand on va trop vite dans un processus de deuil, à un moment donné, on a l'impression qu'on a sorti de la tête de l'eau et qu'on a trouvé une certaine sérénité, mais la colère ou la résignation peut nous rattraper ou même la culpabilité des fois.
Tu vois, je pense,
donc du Nathalie, coup, c'est vraiment important.
Ouais,
oui.
Je pense en particulier, comment dire, par exemple, aux gens qui partent à la retraite. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'à 62 ou à 65 ans, on est largement capable de continuer. Mais par contre, on ne donne pas le choix. On me dit, voilà, tu pars à la retraite. C'est-à-dire que je vais perdre toutes mes habitudes. Je ne vais plus discuter sur le lundi de Pentecôte, est-il férié ou non. Je ne vais plus avoir à m'obliger à me lever, enfin à m'obliger ou à me faire plaisir à me lever à 7 heures du matin pour me raser, pour me doucher, pour prendre mon petit déjeuner et partir. Je ne vais plus retrouver mes collègues. Je suis... voilà, je suis dans le désert, je ne sais plus ce qui m'arrive, je perds tous mes repères.
Alors effectivement, dans cette situation-là, je dirais que la retraite, on ne l'annonce pas comme ça du jour au lendemain, on peut s'y préparer. Donc on n'est pas dans
pas
une
envie.
Annonce, on n'est pas dans
une... Mais t'es-tu ? J'ai pas envie.
Mais après rien ne t'oblige à arrêter de travailler. Tu peux continuer à travailler sous une autre forme.
Mais j'ai pas envie de quitter l'entreprise où je viens de passer 30 ans, par exemple. J'ai mes collègues que j'ai vu grandir, j'ai vu naître leurs enfants, j'ai plein de souvenirs. J'ai pas envie de tourner la page. J'ai pas envie.
Bah à ce moment-là, tu te retrouves devant un processus qui t'est imposé et tu te retrouves dans un processus de deuil. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vas te retrouver en colère parce que t'as pas envie.
Ouais.
Il y a que le temps en fait qui va faire son chemin parce que ça perd sens en fait de ne plus se lever pour aller travailler. Il n'y a plus de sens pour parce que je ne vois plus mes collègues. Il n'y a plus de sens dans ma vie. Je refuse ça. Je ne l'accepte pas. Et à un moment donné, je dirais que si tu restes dans cet état-là de non-acceptation. Tu vas pourrir ta vie. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est là. Voilà. Donc effectivement, tu ne l'acceptes pas. Ok, tu es en colère contre ça. Maintenant, ce qui est intéressant de réfléchir, c'est que, comme tu le disais si bien, c'est qu'à 60-65 ans, t'as encore des capacités de travailler. Donc, d'accord, je vais pas avoir les mêmes collègues. Ok, je vais pas mettre les pieds dans cette entreprise-là. Par contre, je peux faire autre chose. Donc, retrouver un sens à sa vie, retrouver un sens professionnel. Et là, c'est intéressant justement d'être accompagné à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'est aller chercher. Qu'est-ce qui fait que dans cette entreprise je me sentais bien et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'aimerais me sentir bien à nouveau, mais d'une manière différente. Donc, c'est passer de la résignation, de la tristesse, de la colère à l'acceptation. Et c'est cette acceptation qui va permettre une réorganisation de sa vie et de retrouver du sens à sa vie. Enfin, une certaine sérénité.
Ouais. Est-ce que la notion de se faire plaisir peut être une notion importante pour se constituer un nouveau projet de vie?
Ah oui. Et elle est très, très importante. Alors, je vais prendre un exemple. En ce moment, je suis en train de lire des livres de Mike Horn. Donc, Mike Horn, j'adore ce gars. C'est un aventurier. Oui, enfin, pas que d'aventure, un navigateur. Hein, c'est vraiment un aventurier dans l'âme. Et c'est un gars, coûte que coûte, il va arriver à réaliser tous ses projets. Donc, pour lui, il y a du sens. Et en 2015... il s'est trouvé confronté au cancer de son épouse, donc il a perdu son épouse et il s'attendait absolument pas à ça. Il était persuadé qu'avec tous les risques qu'il avait pris dans sa vie, il allait partir le premier et malheureusement, sa femme atteinte d'un cancer est décédée. Donc pour lui, ça a été l'événement le plus traumatisant de toute sa vie, ça a été de perdre sa femme, parce qu'en fait, sa femme, c'est elle qui lui a permis d'avoir suffisamment de force dans toutes ses aventures. Donc, ensuite, il est rentré dans un processus de deuil, mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Eh bien, il a continué à se faire plaisir. C'est-à-dire que, à travers, par exemple, la littérature, à travers l'écriture, ça a été une façon pour lui de s'exprimer, une façon pour lui de partager sa tristesse, de partager sa colère, et en même temps de se faire plaisir aussi, parce que cet exutoire lui faisait plaisir. Donc la notion de plaisir dans ces moments-là est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que c'est des toutes petites étincelles qui montrent que au fond de nous, il y a encore de la vie. Et je dirais, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, on peut encore faire des choses. Et ces petites étincelles, ne serait-ce que manger un éclair au chocolat, ou ne serait-ce qu'aller se balader pieds nus dans l'herbe, c'est ça, les petits moments de bonheur de la vie, les petits éclairs, les petites lumières de la vie. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut garder précieusement, parce que c'est ce qui remet sur le chemin. Et j'invite vraiment les auditeurs à lire les ouvrages de Mike Horn, surtout quand on va pas bien, je dirais, parce que vraiment il donne une leçon d'humilité face à la vie, et puis même face à une circonstance qui pour lui a été dramatique, mais il savait absolument pas comment il allait s'en sortir. Au moment où sa femme est décédée, enfin pour lui sa vie s'arrêtait, mais il s'est quand même remis en chemin, il est reparti dans l'aventure, mais il a su trouver en lui cette étincelle de vie, et cette étincelle de vie est passée par des petits bonheurs au quotidien et aussi par le fait de se faire plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important.
Ça me fait penser au livre, au film de Romain Gary. C'est assez impressionnant. Dis-moi, j'ai bien aimé, puisqu'on est bientôt à la fin, j'ai bien aimé ton image avec le fait de marcher dans l'herbe, marcher pieds nus dans l'herbe. C'est vrai que tu pourras plus tellement marcher pieds nus sur le sable, toi.
C'est super agréable de marcher dans l'herbe. Oui, sauf quand il y a des fourmis rouges.
Ah, mais t'avais pris l'habitude de marcher sur le sable, sur la plage, là.
Oui, sur le sable, mais dans l'herbe, ici, à La Réunion, pas trop, parce qu'il y a beaucoup de fourmis. Et marcher dans l'herbe, en tout cas dans le jardin, c'est mission impossible, sauf si tu as envie d'avoir les pieds piqués par les fourmis. Mais j'ai retrouvé ici le contact avec la terre, le fait, oui, de marcher sur la plage, de quitter plus facilement ses chaussures, et puis bon, du fait de la température aussi, forcément, on marche plus souvent pieds nus. Mais ce contact avec le sol, c'est quelque chose que j'avais perdu. Et que j'ai retrouvé ici en venant à La Réunion. Donc maintenant, je marche à la maison, je suis toujours pieds nus. Je marche pieds nus. J'ai beaucoup de mal à remettre des chaussures.
Ouais, juste un truc, les requins vont te manquer, le massif de corail va te manquer, la chaleur va te manquer, la soufrière va te manquer.
Comment ? La quoi ?
La soufrière va te manquer.
Alors ici, c'est pas la soufrière. La soufrière, c'est du côté des Antilles. Ici, c'est le piton des neiges.
Oui, je veux dire, le piton va te manquer, la chaleur va te manquer.
En fait, tout va me manquer. Tout va manquer. Je dirais surtout ici, ce qui va me manquer, c'est la chaleur humaine. C'est les rencontres. Et ça, c'est toute la joie des voyages, parce que pour moi, voyager, c'est aller à la découverte de l'autre et surtout à la découverte de soi-même, puisque c'est en rencontrant les autres que l'on se découvre soi-même. Donc ici, j'ai vraiment rencontré des gens formidables, des gens que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, ces 15 derniers jours ici, c'est des au revoir, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais quoi qu'il en soit, chaque personne que j'ai rencontrée ici m'a amenée sur le meilleur de moi-même. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que j'aime dans les voyages. Et d'ailleurs, en rentrant en métropole, de nouvelles personnes m'attendent, de nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Donc, je suis déjà dans l'impatience de ces rencontres. Et ça, ce sont quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est l'humain. Effectivement, ici, la nature va me manquer, parce que la nature est extrêmement belle. mais c'est surtout les valeurs humaines et l'humain. Voilà. D'accord. Donc j'espère sur mon chemin rencontrer en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine des gens qui ont des valeurs humaines et voilà, je pense que je ferai à nouveau de belles rencontres là-bas.
On va te souhaiter un excellent voyage. Nous allons faire une
pause
puisqu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, ou plutôt si, il y en aura une qui sera du style du 14 février quand on avait eu un problème technique, ouf, l'autre qui était au mois d'avril, et on avait fait une pause coaching sans Nathalie. Eh bien, on va Lise et moi relever le défi. C'est Lise qui va être mon invité la semaine prochaine pour la pause coaching. On va le faire. Et puis, on patientera que tu nous reviennes très, très vite parce que de toute façon, notre seul objectif, c'est de continuer cette très belle histoire avec toi. Je te souhaite un merveilleux
voyage. Eh bien, avec grand plaisir, Alain.
Ah, au fait, tu me ramènes quoi? Tu me ramènes un petit pot de... Tu me ramènes un requin? Tu me ramènes un petit pot de sable de l'île de la Réunion? Tu me ramènes l'eau de mer de l'île de la Réunion?
Alors, l'eau de mer, je ne vais pas pouvoir. Le sable non plus. De la vanille, puisqu'on a la meilleure vanille du monde.
Eh ben, si tu veux, ou sinon tu m'en mets un bout d'herbe, ça sera encore plus rigolo, comme ça, ça marquera bien le coup par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Plein de bonnes choses à toi. Bon retour.
Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours.
Avec plaisir. Salut, toi. Bye.
Merci.